Afrique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en. Nous sommes vendredi, c'est la Libre Antenne. Dans 30 minutes, vos coups de cœur, coups de gueule sur l'actualité de la semaine, sur tous les sujets qui ne vous laissent pas indifférents. En tout cas, ce matin, vous nous appelez du Bénin pour commenter les résultats définitifs des élections législatives. Ils ont été annoncés cette nuit par la Cour constitutionnelle. Des réactions également du Sénégal, sur plusieurs sujets d'ailleurs. Par exemple, certains d'entre vous nous parlent du journaliste sénégalais Papa Lénian. D'autres réagissent aux mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité ou encore des réactions après l'entretien d'Ousmane Sonko sur nos antennes RFI et France 24. On parlera de Noël Le Graët, le patron du football français. Il est sur la sellette. Certains d'entre vous réagissent au procès du 28 septembre en ce moment en Guinée et surtout sur les excès de colère de Moussa Dadis Camara. Voilà donc un aperçu des sujets qui vous intéressent particulièrement. Vous nous écoutez en ce moment. Il y a peut-être d'autres sujets actualité qui ne vous laisse pas indifférent, bah vous nous appelez, vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction et on va commencer avec Christophe qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Christophe.
Bonjour Johan.
Merci de nous appeler de la capitale togolaise. Des questions sur la guerre en Ukraine.
Tout à fait.
On vous écoute.
Ok. On a été surpris que la Russie change le chef de l'opération militaire en Ukraine juste 3 mois après sa nomination. À ce sujet, j'ai 2 questions.
Oui.
La première, quelle est la raison de ce limogeage?
Alors, on va déjà, si vous le permettez, Christophe, répondre à cette première question avec Anissa El-Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Bonjour Anissa.
Bonjour.
3 mois seulement après sa nomination, voilà que le général Sourovikine a été démis de ses fonctions. Il a été remplacé immédiatement par le chef d'état-major. Comment expliquer ce limogeage?
Bon, alors surprise et limogé, je vous trouve tous un petit peu sévères parce que déjà sur la question de la surprise, bon, en tout cas ici, on commence à être habitué hein, depuis le début de l'opération spéciale, comme dit le Kremlin. Vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs mouvements différents sur le terrain, qu'il y a eu plusieurs hommes, que le général Sourovikine, et c'était une première par exemple, avait été extrêmement exposé, extrêmement mis en lumière. Pour le limogeage, là aussi, je trouve que le mot est un petit peu fort. Le général Sourovikine n'est pas du tout écarté. Alors, évidemment, il a perdu sa place de numéro 1, mais il reste un personnage important dans le dispositif puisqu'il est adjoint numéro 2. Alors, quant à pourquoi, bon, bah, tout le monde a scruté le message, le communiqué officiel. Il y a eu cette phrase très remarquée. La nomination de Valérie Gerasimov, elle est justifiée par une coordination plus importante entre les types de forces sur le terrain. Alors certains y ont vu un aveu implicite de manque de coordination, peut-être une reprise en main. C'est vrai que tout le monde a en tête qu'il y a des rivalités sur le terrain du conflit, des rivalités politiques à Moscou, des conflits de pouvoir en tout cas. Il faut se rappeler le contexte de la nomination de Sergueï Sourovikine. Il a été nommé après qu'il y ait eu des critiques extrêmement sévères contre les commandants de l'armée, des critiques qui étaient venues à la fois de Ramzan Kadyrov, suivies ensuite par Evgeny Prigogine, mais aussi des critiques très sérieuses venant des correspondants militaires. Et cette nomination, elle avait été soutenue par tout ce clan qui était extrêmement critique. Alors, on a un peu l'impression, peut-être chez d'autres analystes, hein, que en fait, ben, le clan Shoigu aurait du coup le Shoigu du nom du ministre de la Défense, et eh bien serait revenu dans le jeu en quelque sorte. Il y a pour ça, pour s'appuyer sur cet argument, cette chaîne Telegram qui est réputée proche du ministre de la Défense et qui, elle, est très sévère sur le bilan de Sergueï Sourovikine. Vous savez qu'on surnommait le général Armageddon pour sa réputation d'homme à poigne. Par exemple, elle lui impute le retrait de Kherson et elle lui impute surtout, vous savez, la responsabilité de cette frappe ukrainienne du nouvel an contre Makiivka. Ce bilan extrêmement lourd, 89 mobilisés morts selon la Russie. Russie et bien plus selon l'Ukraine.
Ouais. En tout cas, il est remplacé par le chef d'état-major des armées. C'est le plus haut gradé de l'armée russe. Justement, je vous ai coupé la parole, Christophe, mais vous avez une deuxième question.
Tout à fait. Alors, la deuxième question. Quelle sera désormais la stratégie de l'armée russe sur le front ukrainien?
Ah. Avez-vous des informations, Anissa El-Jabri? Est-ce que l'armée communique?
Alors non, pas du tout, et sûrement pas sur la stratégie. Alors vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai que, en tout cas, le Sergueï Sourovikine avait incarné une certaine phase hein, de la manière dont on concevait le conflit en Russie, la phase de consolidation, de fortification, de stabilisation, certaine relative stabilité, en tout cas de la ligne de front. Donc vous avez raison de penser que cette nomination pourrait incarner une nouvelle phase. Évidemment, dans quel conflit, personne ne révèle ses plans. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde observe tout un tas de signaux dont on se dit cette fois-ci qu'ils pourraient être avant-coureurs. On a des déplacements réguliers de dirigeants de l'armée russe en Biélorussie. On a des regroupements de forces. Et évidemment, pour beaucoup, ça rappelle ce qui s'est passé à peu près l'année dernière à la même époque, quand officiellement il y avait des exercices russo-biélorusses et qu'en réalité, eh bien, il s'agissait d'une préparation d'une entrée sur le territoire ukrainien en passant par le nord. On a cette arrivée de la deuxième moitié des mobilisés de l'automne qui est en cours, qui devrait pas tarder à arriver. On parle quand même de 150 000 hommes, c'est beaucoup, qui auraient été sérieusement formés. On parle d'un élargissement de la tranche d'âge de conscription, et ces conscrits, on pourrait leur faciliter, c'est un peu la formule utilisée, l'entrée dans l'armée. Ça donne l'idée qu'il est peut-être en train de se préparer une offensive. Et puis c'est vrai que eh bien ça fait quand même très longtemps que l'armée, en tout cas les forces russes plutôt d'ailleurs, n'avaient pas de victoire à présenter. Que ce qui se passe en ce moment, on en parle beaucoup sur l'antenne, les combats acharnés autour de Soledar pourraient marquer peut-être un tournant.
Ouais, Soledar, cette ville de l'est de l'Ukraine que la Russie tente coûte que coûte de conquérir pour changer le cours de la guerre. A-t-on répondu à vos questions, Christophe?
Tout à fait. Merci pour les réponses précises.
Eh bien, bonne journée à Lomé et un grand merci à Anissa El-Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Vos questions à la rédaction de RFI. Valérie Gasse, chef du service politique, s'installe en ce moment même. Bonjour, soyez la bienvenue Valérie.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On a des questions sur la riposte, la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Ibrahima, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
À Conakry,
ouais.
On vous écoute.
Merci. En fait, mes questions là, c'est pas. Les syndicats ont déjà annoncé sa mobilisation le 19 janvier. Le français soutient-il la majorité de cette mobilisation?
Ah, alors,
ça, c'est ma première question.
On va y répondre, Valérie Gasse. C'est vrai que, et c'est à souligner pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, et notamment à Ibrahima, à Conakry, c'est suffisamment rare que là, on a tous les syndicats français, en tout cas les 8 principaux syndicats français qui font front commun contre une réforme du gouvernement. Il y a cet appel à la grève, cet appel à la manifestation dès jeudi prochain. Est-ce que les Français soutiennent justement cette riposte?
Si on en croit les sondages, les enquêtes qui ont été réalisées, en effet, les Français ne soutiennent pas la réforme des retraites. Ils sont majoritairement opposés au recul de l'âge légal de départ qui est proposé par le gouvernement. Et d'autant plus les actifs, ceux qui sont directement concernés, qui n'en veulent absolument pas. Une étude récente, Elabe, qui a été réalisée, je la cite parce qu'a réalisé après l'annonce d'Elisabeth Borne, eh bien 67% des actifs sont opposés au projet du gouvernement. Et cette même enquête indique que 6 Français sur 10 soutiennent ou au moins éprouvent de la sympathie à l'égard du mouvement de mobilisation contre la réforme dont on parlait.
Il faut dire, Valérie, que les réformes des retraites font partie du palmarès des réformes difficiles à faire passer.
Ouais, c'est toujours de mauvaises nouvelles qui sont annoncées. Soit on travaille plus longtemps, soit on doit partir plus tard, soit les deux. Et là, eh bien, on a les deux. L'allongement de la durée de cotisation va arriver plus vite que prévu. L'âge légal de départ est repoussé de 2 ans à 64 ans. Et c'est ça, on parlait des syndicats, qui a provoqué la colère des syndicats, de tous les syndicats, même ceux que l'on appelle réformistes, comme la CFDT, qui généralement accepte plus facilement de négocier avec le gouvernement. Et donc, appel unanime à la grève le 19 janvier pour commencer.
Oui, parce c'est que la première journée de mobilisation.
Et puis, les partis politiques de gauche se sont mis dans le jeu. Ils sont sont tous opposés à la réforme et ils défileront avec les syndicalistes ce jour-là. Les syndicats qui ont d'ailleurs un peu grillé la politesse à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise qui avaient déjà prévu une journée de marche contre les retraites le 21 janvier. Il y a une petite compétition politique syndicat. Les syndicats ne veulent pas se laisser prendre le leadership sur cette opposition au gouvernement.
Oui, en tout cas, les syndicats et les partis de gauche espèrent que les Français vont se mobiliser comme ils ont pu le faire d'ailleurs au moment des précédentes réformes des retraites. On pense déjà à 2019.
2019, il y a eu des centaines de milliers de gens dans la rue et puis il y a même avant d'autres réformes comme 1995. Là, ça avait été vraiment le blocage du pays. Alors le gouvernement croise les doigts pour que la mobilisation ne soit pas trop importante et surtout qu'elle ne s'installe pas dans le pays et qu'il ne soit pas bloqué. Dans les coulisses, on explique que les Français, eh bien, ils ont d'autres soucis, surtout le pouvoir d'achat, et que cela peut les décourager de se lancer dans un mouvement qui dure. On mise un peu du côté du gouvernement sur la résignation des Français pour que le mouvement social n'explose pas. C'est un petit peu l'ambiance actuellement.
Ibrahima, une autre question ?
Justement, ma deuxième question, un accord avec le gouvernement est-il toujours possible ?
Ah, est-ce que c'est possible ?
Alors, on va dire, il ne faut jamais dire jamais, pour le moment, on n'en est pas du tout à cette étape. Là, on est dans le rapport de force, clairement. Le gouvernement a annoncé les mesures et joue la carte de la négociation plutôt politique pour l'instant avec les Républicains, le parti de droite, pour faire passer le texte à l'Assemblée sans utiliser le 49-3. Pas du tout la carte des syndicats, qui, de toute manière, on l'a dit, ont fait du recul de l'âge un point non négociable et ils demandent carrément le retrait pur et simple. Ils vont essayer de l'obtenir dans la rue. Alors après, suivant l'ampleur et la durée de la mobilisation, rien ne peut dire si un camp ou l'autre pourra être amené à lâcher du lest pour sortir du blocage. Les syndicats, eux, jouent gros dans ce conflit. Au moment, ils sont souvent débordés par leur base, on le raconte souvent, et ils doivent montrer qu'ils ont une vraie utilité. Et puis pour le gouvernement, et surtout pour Elisabeth Borne, la première ministre, cette réforme, c'est un test. Un ministre dit même qu'Elisabeth Borne joue sa peau. Alors, est-ce que ça l'amènera à tendre la main ou à se raidir? C'est l'une des questions à laquelle il faudra qu'elle réponde.
En tout cas, c'est un jeudi noir qui s'annonce la semaine prochaine en France, parce qu'il y a les appels à manifester, mais il y a aussi une forte mobilisation. On nous promet des grèves puissantes dans les transports, coupures d'électricité, de gaz, grèves dans les raffineries.
La CGT a même dit les raffineries qui avaient bloqué les approvisionnements en essence pourraient s'y remettre. En effet, on ne sait pas de quoi le mois de janvier sera fait.
À suivre. Ibrahima, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr, merci. Merci à tous les auditeurs et auditrices de la Radio du Monde.
Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt. Merci. Valérie Gass, chef du service politique de RFI. On avait Delphin, mais la ligne vient à l'instant de se couper. Ce sont des choses qui arrivent. Delphin qui est à Bomé, au Bénin. On essaye bien évidemment de le rappeler. Delphin qui s'interroge après les résultats des élections législatives dans son pays. La Cour constitutionnelle a publié cette nuit les résultats officiels. Les résultats définitifs, la mouvance présidentielle conserve la majorité et l'opposition fait son retour à l'Assemblée nationale. Les démocrates, principale formation de l'opposition, qui obtiennent donc 28 sièges. Delphin, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le Bénin.
Et nous vous écoutons, soyez le bienvenu, quelle est votre question ?
Après 4 ans d'absence, l'opposition béninoise a fait son retour dans l'hémicycle. Les démocrates ont obtenu 28 sièges à l'Assemblée nationale. Concrètement, peut-il influencer la politique menée par le président Patrice Talon ?
De mieux placé que notre correspondant sur place pour vous répondre. Bonjour Jean-Luc Aplogan.
Bonjour Delphin, bonjour Juan.
28 députés à l'Assemblée nationale, quelle sera la marge de manœuvre des opposants, les démocrates ?
Avec 28 députés sur 109, le parti Les Démocrates est loin de la majorité qui est de 55 élus. C'est insuffisant pour gêner l'action d'un gouvernement et de faire du Parlement une véritable institution de contre-pouvoir. Vous savez qu'au Parlement, on vote beaucoup les lois, alors le défaut de majorité réduit la marge de manœuvre du camp minoritaire. Elle est donc quasi nulle aujourd'hui pour les démocrates. Il restera à ses députés les débats, les questions orales au gouvernement. Maintenant, au niveau de la représentation au sein de l'hémicycle, les démocrates auront le droit de créer un groupe parlementaire. Il faut 11 élus pour en avoir, c'est largement le cas. Enfin, il y a une jurisprudence au Bénin qui demande de réserver une place au groupe minoritaire dans le bureau de l'Assemblée nationale. Les démocrates seront donc représentés dans le bureau de l'Assemblée nationale.
Voilà, nul doute que les démocrates vont tout faire pour essayer d'avoir un minimum de pouvoir de nuisance, pour essayer effectivement de barrer la route peut-être à certains projets de la mouvance présidentielle. Delphin, une dernière question ?
Oui, beaucoup de citoyens n'ont pas pu voter. Comment expliquer qu'ils n'aient pas pu trouver leur nom sur les listes électorales?
Alors, il y a eu une forte abstention, certes, Jean-Luc Aplogan. Certains électeurs, effectivement, n'ont pas retrouvé leur nom. Et ce point a été évoqué publiquement dimanche, le jour du vote, par le président de la commission électorale.
Oui, absolument. Faisant le point du déroulement du vote, Saka Lafi a reconnu que certains électeurs n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. Il ne donne pas de chiffres, mais il parle de quelques rares électeurs. Un électeur nous a confié l'avoir vécu dimanche. Son bureau de vote a changé sans aucune demande de sa part. Il a découvert le jour du vote, il est rentré chez lui sans voter. Il était très en colère. Le président de la Sénat a dit avoir informé l'Agence nationale d'identification des personnes qui a confectionné les listes électorales pour que cela ne se répète pas les prochaines fois.
On verra ça donc. Delphin, je vous souhaite une bonne journée à Abomey-Calavi.
Merci beaucoup à vous.
Et on continue...
Bonne journée à vous aussi.
Bonne journée. On continuera dans la Libre Antenne à parler des résultats définitifs des élections législatives au Bénin. Merci Jean-Luc Aplogan, correspondant de RFI à Cotonou. 9h26 à Paris. Allez, une dernière question, c'est la dernière de la semaine. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, un grand bonjour à votre formidable équipe au Sondage.
Merci de vos encouragements Delvi. Vous avez des questions sur la contestation en Iran?
Le week-end dernier, deux hommes ont été exécutés après avoir été reconnus coupables du meurtre d'un paramilitaire. Cinq hommes ont été accusés dans le dossier. Comment expliquer que trois d'entre eux aient échappé à la peine capitale?
Ah, je vois, Delvi, que vous avez bien suivi cette actualité. Bonjour, Nasser Etemadi.
Bonjour. Ouais.
Journaliste à la rédaction en langue persane de RFI, ces deux manifestants ont été pendus samedi dernier, comme le rappelait Delvi, pour le meurtre d'un milicien islamiste. Dans ce dossier, effectivement, il y avait 15 personnes qui ont été jugées. 5 ont été condamnées à mort par le tribunal et 2, au final, ont été pendues. Pourquoi les 3 autres ont-ils échappé à la peine capitale?
Bah, Juan, tout simplement à cause de la mobilisation des gens à travers le monde, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Comme tu le sais, on n'a jamais eu autant de mobilisation, ne serait-ce que à l'échelle internationale, pour soutenir le mouvement en cours pour l'émancipation en Iran.
Donc là, il y avait du monde devant la prison?
Exactement. Il y a eu du monde devant la prison, où les gens escondaient dans leur slogan. C'est notre dernier message. Si vous exécutez, il y aurait un soulèvement. Donc ainsi, les 3 autres ont pu échapper à l'exécution, mais ce n'est pas pour autant la fin de leur sentence.
Non, parce que
bien au contraire.
L'affaire se poursuit. Et ils risquent donc d'être pendus prochainement.
Exactement. Oui. D'autant plus que le guide suprême, en désignant Ahmad Reza Radan, celui qui a réprimé dans le sang le mouvement vert en 2009, a opté finalement pour une main de fer. Ce qui, étrangement, me rappelle personnellement l'époque de Shah en 1979. La militarisation du pouvoir face à un soulèvement populaire avant la capitulation.
Et Nasser, depuis le début du soulèvement, 17 personnes ont été condamnées à mort par le pouvoir iranien. Quelles sont les raisons juste évoquées ou comment les autorités justifient-elles la peine capitale?
Tout simplement en citant tout simplement les termes coraniques. On qualifie les personnes arrêtées d'ennemis de Dieu ou d'ennemis ou combattants contre Dieu et son prophète, ce qui d'emblée ouvre la voie à la possibilité de leur exécution. Selon Human Rights Watch, dans son dernier rapport, il y a même plus. Il y a plus de centaines de personnes qui risquent aujourd'hui, en fait, la peine de mort en Iran. Donc, les personnes arrêtées sont jugées à vie clos par les tribunaux révolutionnaires. Dans le mépris...
Et jugées de façon expéditive.
Et expéditive, évidemment. C'est lui, par exemple, de choisir son propre avocat. Leurs avocats, en fait, sont la plupart du temps membres des groupes paramilitaires, Basij et gardiens de la révolution, qui, en fait, soutient les accusations... Les accusations et contre leurs propres clients, c'est une parodie de justice, c'est une situation surréaliste.
Merci Nasser Etemadi d'être passé dans ce studio, journaliste à la rédaction en langue persane de RFI. Je salue Delvi qui nous appelait de Pointe-Noire au Congo. Dans 10 minutes, la Libre Antenne, donc continue à nous appeler. On a envie de vous entendre sur l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Il est l'heure de la dernière édition d'Afrique Matin.